Bonsoir, bienvenue à ce second cours de l'année 2011-2012, cours de printemps d'une certaine manière. Je voudrais juste dire qu'il reste une dizaine de places réparties un peu à gauche, à droite, hein, que s'il y a de quoi s'asseoir, en particulier si on vient de ce côté-là, mais comme vous le souhaitez. Bien, donc aujourd'hui nous allons... mêler un peu les sujets, puisque moi je vais vous parler, comme il est indiqué sur le programme, des bulles, récurrence d'un OTNI. Alors un OTNI, ce n'est pas un OVNI, c'est un objet théorique non identifié, peut-être un OTMI, objet théorique mal identifié. Et nous passerons des OTNI à Keynes. Non pas que Keynes soit lui-même un OVNI, mais c'est quelqu'un qui est de retour. Et donc, Rodolphe de Santos nous parlera de Keynes. Donc ça nous fera certainement basculer de sujets à d'autres qui ne sont pas tout à fait les mêmes, ni tout à fait des autres, ni tout à fait un autre, comme on dit parfois. Mais ça nous fera passer à la macroéconomie, qui est un sujet que j'aborderai au fond vers la fin de ce cours. Et donc, vous avez en quelque sorte un avant-goût ou une introduction à des choses sur lesquelles je reviendrai. Je vais passer donc à l'introduction. Je vais faire un bref rappel sur les bulles. J'ai fait allusion la fois dernière, lorsque j'ai fait un tour d'horizon sur la crise que nous sommes en train de vivre, hein, et qui a débuté en 2007-2008. J'ai fait allusion à un certain nombre de bulles, parce que les bulles, d'abord, c'est très évocateur. Et ça permet de raconter des histoires qui sont bien connues ou qui, si vous ne les connaissiez pas, vous ont sûrement intéressé. Alors, par exemple, la bulle des tulipes, hein, la bulle des mers du Sud, vous vous souvenez sans doute, j'ai parlé aussi de la bulle de 1929, de la bulle Internet. J'ai fait vaguement allusion, mais Robert Boyer avait repris cet exemple, à la bulle japonaise des années 90. Et naturellement, on avait passé un certain temps sur les subprimes, hein, et la bulle immobilière qui a précédé la crise. Alors, dans tout ceci, vous voyez bien qu'il y a une grande variété de bulles. D'abord, il y a des bulles qui sont sur des marchés tout à fait différents, des bulles qui sont sur le marché boursier. Vous avez des bulles qui sont sur le marché immobilier. Vous avez des bulles qui commencent sur le marché immobilier et se terminent sur le marché boursier. Je dirais que c'est des bulles jointes, celle de 2007, celle qui s'est effondrée en 2007-2008, est de cette catégorie. Et naturellement, j'ai pas évoqué des bulles sur les marchés de matières premières, qui sont aussi des phénomènes assez récurrents, mal identifiés aussi, je reviendrai. Par ailleurs, il y a évidemment beaucoup d'autres caractéristiques à ces bulles. Certaines bulles sont sans conséquences macroéconomiques, d'autres ont des conséquences macroéconomiques fortes. Donc vous voyez qu'il y a une grande variété de bulles. Alors je vais vous remontrer un certain nombre de petits diagrammes qui vous rappelleront chacune de ces bulles et vous remettront un petit peu en tête qui vous permettront de mettre l'accent un petit peu sur la variété que je viens d'évoquer. Alors ça, c'est la bulle des mers du Sud. Vous voyez, la bulle des mers du Sud, c'est en 1720. Et c'est une bulle, c'est une montée rapide et un effondrement rapide. Tout ceci se fait, si l'on en croit ce graphique, en quelques mois. Ce qui a surpris Newton, comme vous le savez, comme je l'avais rappelé la fois dernière. Alors là, je parle de la première bulle jointe, c'était celle sur laquelle on avait concentré l'attention. Vous voyez monter le prix de l'immobilier aux États-Unis à partir, ça se discute, 2002-2003, quelque part. Vous voyez la montée rapide du prix de l'immobilier, suivie d'une baisse aux alentours de la période qu'on a indiquée, c'est-à-dire avant 2007. Et ça s'enchaîne avec un effondrement du marché boursier, qui là commence un peu plus tard et qui est également rapide. Et donc c'est des bulles, je dirais, jointes, mais consécutives. Autre bulle sur laquelle je n'ai rien dit, sur laquelle je reviendrai peut-être dans la suite, c'est la... C'est ce qui s'est passé au Japon dans les années, à la fin des années 80. Vous avez une montée de l'indice boursier et une montée simultanée des prix de l'immobilier. Hein. Robert Voyer, vous avez donné quelques exemples des sommets qu'on avait atteints en matière de prix de l'immobilier. Hein. Et vous voyez que la descente du marché boursier précède la descente du marché immobilier, que l'un et l'autre durent assez longtemps et vont jusque presque vers les années 2000. Et donc ça, c'est une bulle jointe, mais là c'est plutôt la bulle boursière ou l'effondrement de la bulle boursière, ou du moins son retournement, qui précède le retournement de la bulle immobilière. Donc c'est une variété... Alors là, j'avais montré ce dessin aussi la fois dernière, c'est la bulle Internet, hein, qui part de 97-98 jusqu'à 2000, hein, dont on a beaucoup parlé, hein, dot.com, bubble, comme disent les Américains. Alors à nouveau, vous voyez une montée progressive et une descente assez brutale de l'indice des valeurs Internet. Ceci, c'est un épisode dont je n'avais pas parlé, auquel Robert Boyer a fait allusion, qui était l'effondrement de la bourse américaine en 1987, où il y a eu, c'était plus le lundi noir, mais je ne sais plus quel jour qui était noir, à l'image de ce qui s'est passé en 1929, hein, effondrement rapide. Alors, les deux dernières bulles ont une caractéristique commune, ce sont des bulles sans conséquences macroéconomiques. Il n'y a pas eu d'effondrement de l'économie lié à l'effondrement de ces bulles, etc. Donc c'est des bulles, je dirais, plus innocentes que les autres. Alors, question, ici, moi je fais de la théorie économique, donc on va essayer de parler de la théorie économique des bulles. Alors d'abord, pourquoi on voudrait avoir une théorie des bulles ? On sait que ça existe, on a plein d'histoires à raconter, hein, mais si on ne comprend pas ce qui se passe, on est évidemment désarmé sur les mesures de politique économique à prendre. Donc les économistes essaient de comprendre comment fonctionnent les bulles, ils essaient de le comprendre, les économistes comme moi, en faisant des modèles, hein, pour essayer de voir si tout ça se tient bien. On va voir que ce n'est pas facile avec les bulles. C'est pour ça que j'ai parlé d'objets théoriques non identifiés. Une des raisons pour lesquelles ce n'est pas facile, je crois que vous l'avez vu peut-être immédiatement, il y a une grande variété de bulles. Hein. J'avais mis dans le diagramme précédent... Ah, je ne sais plus où c'est. J'y fais allusion un petit peu à la fin. Donc, il y a une grande variété de bulles. Et comme l'a dit Tolstoï dans un de ses romans, hein, les familles heureuses n'ont pas d'histoire ou ont toutes la même histoire. Et les familles il y a autant d'histoires que de familles malheureuses. C'est un peu la même chose. Hein. On a l'impression qu'il y a autant d'histoires qu'on devrait dire qu'il y a de bulles. Donc, ça, ceci dit, pour dire que la barre est peut-être pas facile à passer, on verra. Mais alors, on va d'abord essayer de reprendre ce qui est écrit ici. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une bulle ? Eh bien, c'est un gonflement, si je fais, je cherche pas à être extraordinairement précis, ou etc., c'est un gonflement non justifié du prix d'un actif. Hein. Un actif financier, un actif, ça peut être une maison, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, non justifié ? La première chose, c'est la première question. Eh bien, pour les économistes, il y a plein d'essais de définition de ce que serait non justifié. En particulier, il y a un concept qui s'appelle le concept... On essaie de définir un concept, en particulier sur le marché boursier, qui s'appellerait la valeur fondamentale. Et la valeur fondamentale décrirait en quelque sorte le prix vrai, ou le prix, une estimation du prix vrai. Ça peut être une variable aléatoire. On ne dit absolument pas qu'elle est absolument connue, que c'est déterminé, hein, du prix d'un actif. Donc, bulle, c'est prix supérieur à la valeur fondamentale. Alors, ça ne va pas nous simplifier nécessairement complètement la vie, du moins dans ce que je vais faire aujourd'hui, hein, parce que vous voyez bien que il faudrait réfléchir sur ce qu'est la valeur fondamentale. Alors, la valeur fondamentale, ce n'est pas la même chose sur le marché boursier et sur le marché immobilier. Sur le marché boursier, la valeur fondamentale, ça doit être un petit peu quelque chose qui est en quelque sorte un résumé exhaustif de ce que vous pouvez gagner dans la suite, hein, en gardant l'action. C'est-à-dire, ça doit tenir compte des dividendes qu'elle va vous procurer ou des avantages à la revente qu'elle va vous procurer, etc. Sur le marché immobilier, la valeur fondamentale, si vous habitez la maison, c'est le fait d'être dans la maison. Si vous la louez, c'est le fait de recevoir des loyers, etc. Sur le marché des matières premières, on pourrait parler là-dessus. Alors donc, la première question, c'est que ce n'est pas évident de reconnaître une bulle. Il n'est pas évident de reconnaître ce qui est une évaluation non justifiée, un gonflement non justifié de ce qui est quelque chose qui correspond à une bonne nouvelle par rapport à une mauvaise nouvelle. Alors, malgré tout, il y a des indices. Quels sont ces indices ? Sur le marché boursier, vous regardez le prix de l'action et vous regardez le dividende. Il est plus malin de regarder le prix de l'action et le bénéfice par action de l'entreprise que vous êtes en train de considérer. Ça s'appelle price-earning ratio. C'est un indicateur assez standard en matière d'évaluation du marché boursier. Pour le marché immobilier, vous regardez vous comparez le prix de la maison avec le loyer que vous pouvez en tirer. Alors, on regarde par exemple de ce critère, la bulle immobilière qui a précédé les subprimes était clairement une bulle. C'est-à-dire qu'il y avait. Le prix n'était pas en relation. Mais quand je dis c'est clairement, malgré tout, il n'y a rien qui soit absolument probant. Il se peut que les loyers augmentent beaucoup dans la suite, il se peut qu'il y ait des effets d'avance, il se peut que les dividendes ou les bénéfices augmentent dans la suite. En particulier dans la bulle Internet, il est évident que la croyance initiale est celle d'une croissance des bénéfices. Donc, et j'ai cité Tolstoï avec un petit peu d'avance, mais c'est toujours pertinent. Alors, je vais faire donc quelques remarques de base. Hein. Je l'ai dit, il faut distinguer ce qui est bulle et ce qui est information, et ce qui est bonne nouvelle. Ça, c'est la première chose, c'est la difficulté à laquelle j'ai fait allusion. Et si on veut faire une bulle, il faut modéliser certainement trois choses. Il faut mettre l'accent sur trois aspects. Les comportements des agents économiques qui sont impliqués dans cette affaire. Il faut mettre en évidence aussi l'information qu'ils reçoivent, l'origine de cette information, la manière dont elle est partagée, la manière dont elle est disséminée. Ça, c'est tout à fait clair, ça va être important. Et le troisièmement, il faut expliquer les croyances des agents dans ces périodes. Tout ça, c'est qu'il s'agisse d'informations, comportements, croyances, il y a une manière standard dans la théorie économique contemporaine de traiter ces affaires. Hein, c'est ce que je dirais, c'est la manière du modèle canonique. Et donc, la première question que je vais me poser, est-ce qu'on peut trouver des bulles dans le modèle canonique ? Alors, par modèle canonique, je prends le modèle de fonctionnement de l'économie qui est un petit peu standard dans beaucoup de secteurs, qui a ses mérites et ses défauts, et qui est fondé sur un croisement dans lequel on cumule trois types d'hypothèses. La première, c'est que les agents sont rationnels. C'est l'hypothèse de l'homo economicus. Alors on pourrait discuter très longuement sur l'homo economicus. C'est évident qu'il y a un argument pour penser que les agents ne sont pas aussi irrationnels que ça. Hein. Solo disait... l'économie est le secteur où il est socialement accepté de poursuivre son propre intérêt. Donc il le définissait comme socialement défini. Donc les agents sont rationnels, c'est une première hypothèse qu'on fait. Deuxième hypothèse, on fait des hypothèses standards sur la dissimulation de l'information. On fait l'hypothèse que les agents traitent convenablement l'information sans être nécessairement très très bons statisticiens, mais sans être complètement idiots. C'est peut-être une hypothèse sur laquelle il faudra revenir également. En tout cas, et la troisième hypothèse, alors ça c'est la plus importante, c'est la plus discutable, mais en même temps c'est celle qui, en quelque sorte, est la plus spécifique au comportement des économies. On fait l'hypothèse que les anticipations sont rationnelles, au sens où les agents ne se trompent pas statistiquement sur ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas, hein, ils peuvent avoir des informations tout à fait fausses, mais ils n'ont pas une vision du monde qui est statistiquement biaisée. Hein. Robert Boyer, la dernière fois, aurait dit « ils ont une convention qui tient à peu près la route ». C'est notre manière de le lire. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un modèle dans lequel, avec ces hypothèses, dans lequel il y aura une bulle ? Alors, on va regarder ça et je vais vous dire, d'une certaine manière, la réponse va être non. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir expliquer ? D'abord, la bulle, c'est un actif. Donc, dans le cadre de ce modèle, sa détention doit être rentable. Alors, c'est un actif. La bulle, hein, ce que j'appelle bulle, c'est ce qui va être en dessus de la valeur fondamentale. C'est en dessus de la valeur qui est explicable par les paramètres habituels. Donc, il n'a pas de valeur fondamentale et il s'échange à un prix positif. Donc, la question, c'est est-ce que je peux décrire un monde dans lequel il y a quelque chose qui n'est pas de valeur et qui s'échange à un prix positif ? Est-ce que ceci peut être soutenable ou pas soutenable ? Donc, j'ai regardé cette question dans des cadres tout à fait standards. J'ai donné une réponse un peu mi-figue, mi-raisin. Et puis, je vous dirais que cette réponse n'est pas satisfaisante parce qu'elle ne rend pas vraiment compte des bulles qu'on observe. Mais il faut quand même aller jusqu'au bout de cette réponse si on veut commencer à comprendre ce qui se passe dans les bulles réelles. Du moins, c'est le chemin que je prends. Donc, on va regarder... D'abord, on va regarder un monde dans lequel l'horizon serait fini. Alors, donc, quelle théorie pour les bulles ? Y a-t-il des bulles sur l'hypothèse canonique ? Donc, j'ai dit... Je vais mettre dans un monde où il y a un horizon fini. Et puis je vais prendre un cas où il y a une... Alors il y a une bulle, il y a un actif qui n'a pas de valeur fondamentale, ou si vous voulez, c'est le prix d'un actif est supérieur à sa valeur fondamentale, c'est la même chose. Et cet actif a un chemin de prix qui est déterminé. Je ne mets pas d'incertitude pour l'instant. Le maître de l'incertitude ne va pas changer grand-chose à mon affaire, mais je n'en mets pas. Et je fais l'hypothèse, puisque c'est déterminé, c'est peut-être dans une situation rationnelle, ça veut dire que c'est parfaitement anticipé par les agents. Il y a prévision parfaite. Par ailleurs, je vais supposer qu'il existe un actif qui n'est pas risqué, hein, les bons du Trésor, par exemple, qui donne un taux d'intérêt petit r donné. Dans ce monde-là, si je vais essayer de répondre, peut-il exister une bulle déterministe, hein, je vais revenir sur stochastique tout à l'heure, eh bien, la valeur de la bulle déterministe, elle doit croître comme le taux d'intérêt. Si je détiens la bulle aujourd'hui, il faut que le taux de rendement sur cette bulle soit la même que celle de l'actif sans risque. Donc la bulle doit croître autant que le taux d'intérêt. Alors si elle est stochastique, elle doit croître plus vite que le taux d'intérêt, parce qu'il y a des effets de risque, il y a une chance qu'elle s'effondre. Mais pour l'instant, elle doit croître comme le taux d'intérêt. Mais malheureusement, comme on est dans un monde qui est fini, il y a une fin du monde un jour, pas très loin, donc à la dernière période, plus personne n'a besoin de cette bulle, puisqu'on ne la détient que parce qu'elle vous donne de l'argent la fois suivante. Donc, en dernière période, elle aura un prix zéro. Mais si elle a un prix zéro en dernière période, elle aura un prix zéro en avant-dernière période, puisque les agents qui sont en dernière période savent qu'elle aura un prix zéro, qui sont en avant-dernière période, etc. Et donc, par raisonnement d'induction vers l'arrière, la bulle a un prix nul. Donc, c'est un petit peu décevant, on est un petit peu embêté. Et le problème, c'est que non seulement la bulle est un prix nul, ça c'est un fait, mais... Non seulement c'est l'équilibre, hein, l'équilibre tel qu'on définit les économistes, où on essaie d'avoir un équilibre de prix parfait, le prix ne peut être que nul. Mais c'est beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire, dans ce monde-là, si les gens savent que le monde va s'arrêter, s'ils comprennent comment il fonctionne, et si ceci est connaissance commune, alors il est connaissance commune que le prix sera nul. C'est-à-dire, non seulement le prix sera nul à l'équilibre, mais chacun sait que le prix sera nul, chacun sait que chacun sait que le prix sera nul, chacun sait que chacun sait que chacun sait que le prix sera nul. Donc, cette nullité est ancrée dans en quelque sorte, quelque chose dont on ne peut pas sortir. Alors, connaissance commune, c'est quelque chose dont je parlerai, hein, je reviendrai sur cette idée, parce que c'est une idée forte, c'est une idée qui, évidemment, dépasse beaucoup l'économie. Un animal qui miaule et qui a des oreilles, je l'appelle un chat, hein, c'est parce qu'il est connaissance commune que c'est un chat, que ça s'appelle un chat. Si je l'appelais un chat et que je ne savais pas que vous l'appeliez un chat... je n'utiliserais pas ce mot. Si je l'appelais un chat, que je savais que vous l'appeliez un chat, mais que je ne savais pas que vous sachiez que je l'appelle un chat, je ne l'appellerais pas un chat. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que pour que le mot soit établi, il faut qu'il y ait connaissance commune de la chose. Donc c'est un peu comme la bulle. Alors, si la bulle était stochastique, je ne vais pas reprendre le raisonnement, mais grosso modo, s'il y a une fin du monde, ça ne change pas l'affaire. La bulle, à chaque fois, a une probabilité d'éclater, mais à la dernière période, elle doit éclater et on remonte vers l'arrière. Donc, on n'a pas trouvé de bulle en horizon fini dans un modèle standard. Alors, je n'ai pas été très précis sur les hypothèses, mais malgré tout, c'est quelque chose d'un peu robuste. Alors, je reprends, mais j'ai déjà donné l'argumentaire. Je ne vais pas le reprendre très longuement. Ce qui se passe, c'est qu'en T-1, l'agent qui est en dernière période sait qu'il est en avant-dernière période. L'agent en avant-avant-dernière période, T-2, sait que l'agent d'avant-dernière période sait qu'il est en avant-dernière période. Et l'agent qui est en T-3 sait que l'agent qui est en T-2 sait que l'agent qui est en T-1 est en avant-dernière période. Donc j'ai utilisé malgré tout un bagage implicite sur lequel je peux revenir. Alors, effectivement, je vais évoquer une première raison pour laquelle il y aura une bulle. Alors, c'est une raison qui est très tirée par les cheveux. Je ne vais pas la développer. Je reprendrai peut-être le modèle la fois prochaine pour montrer qu'il tient à peu près la route, mais je vais simplement donner cet exemple. On est dans un monde... c'est un modèle tiré d'un article, je ne sais plus, il est paru dans Econometrica début des années 2000 par Allen et Gorton. Et c'est un modèle en temps fini dans lequel il y a une bulle. Et pourquoi il y a une bulle ? Bien parce que les agents ne peuvent pas savoir s'ils sont les derniers à avoir l'actif. C'est dans un monde, dans ce monde, ce monde dure de 0-1. Et il y a quelqu'un qui a l'actif à la période 0, je dis. Tout le monde naît à la période 0, en quelque sorte. Il y a quelqu'un qui a l'actif. Et la question de savoir, c'est s'il... Alors, cet actif, il a une valeur fondamentale 0 pour avoir une pure bulle, mais ça peut être 1, ça peut être n'importe quoi. Je vais essayer de faire soutenir une bulle. Et puis, l'agent qui est l'actif à la période 0 meurt à la période T2-1. Meurt, ça veut dire qu'il a besoin de se débarrasser de l'actif. Et il apprend qu'il a besoin de se débarrasser de l'actif epsilon avant qu'il le sache vraiment, avant qu'il ait à le faire, et il le fait immédiatement. Et à ce moment-là, il va automatiquement, alors l'histoire est un petit peu tangente, il va nécessairement vers l'agent 2. Alors, l'agent 2, lui, il va mourir à un tiers de l'époque au moment où il a reçu l'actif, où le premier donc a eu besoin de lui vendre, et la fin qui est 0,1. C'est-à-dire qu'il va mourir, il aura besoin de l'actif à un tiers plus deux tiers de T2-1, où T2-1 est le temps auquel le premier a reçu l'actif. Et puis, à ce moment-là, il y a un agent 3. Alors, l'agent 3, lui, s'il prend l'actif, il en aura besoin à non pas un tiers du temps entre 1 et T2-1, non pas un tiers du temps, mais à deux tiers du temps. C'est-à-dire que lui, il vit deux tiers du temps après la mort du premier agent. Mais le problème, c'est que les agents ne savent pas s'ils sont les agents 2 ou 3. Et en fait, dans ce monde où l'agent 1 peut mourir, entre guillemets, avoir besoin de son argent à n'importe quel moment, de façon, je vais prendre une densité uniforme, hein, c'est uniforme entre le temps, donc la probabilité que l'agent 1 meure entre t et t plus dt, c'est dt. Maintenant, si vous recevez une proposition d'un agent pour vous transmettre l'actif, à un moment donné, ça peut venir, soit si c'est entre t égale 0 et 1 tiers, ça vient certainement de l'agent 1. Donc vous êtes certainement l'agent 2, vous avez intérêt à accepter, enfin, si le prix de l'actif va continuer à monter. Si c'est après 1 tiers, alors ça peut venir de l'agent 1, probabilité dt, c'est-à-dire il peut mourir à ce moment-là juste, etc. Ou ça peut venir de l'agent 2 parce que l'agent 1 est mort pendant un temps, à l'époque T1, et pendant un intervalle de temps qui cette fois était égal à T1 plus 3,5 de dt. Hein, puisque en ce moment-là, T1 plus 3,5 de dt, comme s'il il vit deux tiers, ça va tomber entre t et t plus dt. Hein. Donc il y a plus de chances que ce soit l'agent 2 que l'agent 1. Ce rapport de chance est 3,5 sur 1. C'est-à-dire que la probabilité a posteriori que si quelqu'un vous propose l'actif après t égale 1 tiers, ce soit l'agent 2, est égale à 0,6. La probabilité a posteriori que ce soit l'agent 1 est 0,4, si vous êtes un bon statisticien. Ben dans ce monde, vous voyez qu'une bulle peut durer. Pourquoi ? Ben parce que l'agent 1, si la bulle monte, il la repellera à l'agent 2. L'agent 2, il a intérêt à le faire, puisqu'il va gagner. Et l'agent 3, lui, il ne pourra repayer. Il a presque une chance sur deux qu'il gagne de l'argent, puis une chance sur deux qu'il ne puisse pas rembourser. Mais s'il ne peut pas rembourser, c'est les gens qui lui ont prêté qui payent. Donc la bulle n'est pas tout à fait rationnelle. Il va y avoir une bulle. Elle n'est pas tout à fait rationnelle, au sens que les gens qui prêtent aux agents qui sont engagés dans l'affaire ne devraient pas le faire. Mais ça ressemble un peu à une bulle. Bon, c'est une histoire qui vaut ce qu'elle vaut. Ça, c'est le modèle et l'équilibre. Mais je vais... maintenant, on voit bien l'idée que si les choses s'arrêtent à un moment, et que tout le monde le sait, hein, la fin du monde en un sens vraiment tout à fait métaphorique, hein, ça peut être la fin de l'innovation Internet, ou ça peut être n'importe quoi, donc on n'aura pas de bulle. Alors est-ce qu'on peut avoir une bulle dans un modèle à horizon infini ? On va prendre un modèle plus abstrait possible, hein, avec lequel on peut discuter plein de choses, comme un modèle d'équilibre général à horizon infini. Alors la première chose, c'est que si on vit infiniment, mais qu'il y a une bulle temporaire qui a un support fini, c'est-à-dire dont on sait qu'elle aura éclaté dans 35 mois ou 35 ans ou 35 siècles, etc. Eh bien, par le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure, elle ne peut pas naître. Embêtant. Par contre, la bulle pourrait aller jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que la bulle pourrait se perpétuer, etc. Alors est-ce que ça, c'est possible d'avoir une bulle qui va jusqu'à l'infini ? On va réfléchir à nouveau, hein. Si c'est le cas, je vais l'appeler une bulle durable. Et dans la bulle durable, je vais prendre deux types de bulles durables. La bulle déterministe, qui croit de façon déterministe. Alors, c'est un monde un peu simpliste, surtout si on va loin, c'est difficile de croire que tout est déterministe. Et puis la bulle stochastique. Alors, la bulle stochastique, c'est la bulle qui aura une chance d'éclater à chaque période. Alors, les deux sont durables au sens, la première, elle dure vraiment tout le temps, et la deuxième, il y a toujours une probabilité positive que même après 1 million de siècles, elle soit là. Mais elle peut être extraordinairement faible. Toutes les deux sont des bulles durables. Alors, est-ce qu'on peut trouver des bulles durables ? Alors, on va faire le raisonnement dans le cas d'une bulle déterministe. Hein. En horizon fini comme en horizon infini, la bulle déterministe doit croître autoptitaire. Donc elle doit accroître comme 1 plus R à la puissance T. Alors vous voyez bien qu'il y a un problème, hein, c'est que si R est supérieur au taux de croissance de l'économie, cette bulle vaudra plus cher que l'économie. Donc elle ne pourra pas durer. Donc si le taux de croissance de l'économie est inférieur au taux d'intérêt de l'actif sans risque, eh bien, il ne peut pas y avoir de bulle, elle va nécessairement s'effondrer. Donc, il n'y a pas de bulle à horizon infini déterministe. C'est la même chose pour les bulles stochastiques, le raisonnement est un petit peu plus compliqué, mais c'est la même chose. Parce que la valeur de cette bulle, ce qu'il faudrait payer, dépasserait les richesses de l'économie, donc elle ne peut pas exister. Donc, on revient au problème précédent. Les bulles n'existent pas, si vous en croyez mon raisonnement jusqu'à maintenant. Ce n'est pas des objets théoriques non identifiés, c'est des objets théoriques non existants. En tout cas, c'est ce que nous suggèrent des raisonnements faits en horizon fini, en horizon infini. Pas de bulles temporaires et non pas de bulles durables, stochastiques ou déterministes. Ce n'est pas sûr, parce qu'on va prendre un modèle qu'on avait regardé déjà, ceux qui étaient avec moi il y a quelques... Quand est-ce que j'ai fait ça? Il y a 3 ans. On a parlé du modèle à génération. Alors, c'est un modèle tellement simple que je vais justement rappeler de façon littéraire. Hein, je remettrai les équations quand même pour vous montrer que c'est à la fois une histoire extraordinairement simple et quand on la regarde de plus près, c'est une histoire qui peut être extraordinairement compliquée. Il se passe des choses extraordinairement compliquées dans ce monde sur lequel j'avais insisté la fois. Là, je vais dire les choses extraordinairement simples. Alors, c'est le modèle de Halley-Samuelson à génération. C'est un modèle extrêmement... Il y a une période zéro... Hein, et il y a des jeunes et des vieux. Les jeunes, quand ils naissent, ils ont une dotation forte. Et en deuxième période, où ils sont vieux, ils n'ont plus rien, ou pas grand-chose. Et ça, c'est pour toutes les générations. Donc, dans une génération donnée, donc chaque génération vit 2 périodes. Hein, donc, à la période zéro, vous avez les vieux qui viennent du passé, on ne sait pas d'où, hein, qui n'ont rien, et les jeunes qui ont quelque chose. Et puis à la période suivante, les vieux n'auront rien, c'était les jeunes de la période zéro, les vieux n'auront rien, les jeunes auront quelque chose, etc. Bon. Et ces générations sont identiques et se déroulent jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il y a comme équilibre dans cette économie? Il n'y a pas de production. Naturellement, on peut en mettre, on peut raconter des histoires qui ressemblent beaucoup plus à des choses sur lesquelles on a envie de discuter, comme on peut mettre du capital, de la croissance. Ça va rien changer fondamentalement mon histoire. Qu'est-ce qui se passe, l'équilibre? Eh bien, l'équilibre, c'est l'autarcie. C'est-à-dire que la première période, les vieux et les jeunes ne peuvent pas échanger. Deuxième période, c'est pareil. Hein, donc, quand vous êtes jeune, vous consommez. Quand vous êtes vieux, vous n'avez plus rien, etc. C'est l'autarcie, sauf si on met dans l'économie quelque chose qui est qu'on va appeler la monnaie, qui est quelque chose qui est détenu par les vieux de la première génération, dans lequel il est écrit « ceci me donne droit, ceci est quelque chose que je peux transmettre, que vos descendants accepteront, etc. » J'appelle monnaie. C'est simplement un bout de papier sur lequel il est marqué que ça a une certaine valeur. Et le problème, c'est que ce bout de papier va être accepté. C'est-à-dire que donc, les jeunes aujourd'hui vont se priver de consommation pour acheter ce bout de papier. Et la phrase suivante, ils montreront ce bout de papier aux jeunes de demain, avec lequel ils achèteront, et les jeunes de demain achèteront ce bout de papier pour eux-mêmes le présenter aux jeunes d'après-demain, etc. Alors ça, c'est au sens strict, on peut l'appeler de la monnaie, on peut l'appeler de la dette publique, ça a beaucoup d'interprétations, mais ça permet, dans ce monde où il n'y a pas de moyen de transférer de la valeur, parce que là, la structure est comme ça, ça permet de transférer de la valeur d'une période à l'autre. De façon artificielle. C'est, au sens strict que j'ai donné tout à l'heure, c'est une bulle. Ça n'a pas de valeur intrinsèque, ça n'a pas de valeur fondamentale, et ça a une valeur de marché. Alors, en fait, la valeur de marché, on va l'appeler 1, puisque c'est la monnaie, et le prix des biens, ça va être petit p. Par ailleurs, ce raisonnement, il n'y a strictement aucune contradiction avec le raisonnement précédent. Pourquoi? Parce que dans ce monde, le taux d'intérêt d'équilibre est égal à 0. Toutes les générations sont au même niveau, donc le taux qu'elles souhaiteraient échanger dans ce monde, où il n'y a pas de production et où elles ont les mêmes consommations quand jeunes et vieux, eh bien c'est zéro. Hein, le taux d'intérêt d'équilibre, c'est zéro. Taux de croissance, c'est zéro. Donc il n'y a pas de contradiction. Ce que fait la bulle, c'est que dans un monde où cette fois le taux d'intérêt était négatif, hein, que c'est le taux d'intérêt du modèle de Tarsi, elle ramène à zéro, hein, qui est égal au taux de croissance. Alors ça aussi, c'est une propriété tout à fait générale. C'est dans des modèles de ce genre, si le taux d'intérêt d'équilibre, hein, est inférieur au taux de croissance de l'économie, parce que l'économie croît, parce qu'on a la croissance endogène, parce que le nombre de gens croît, etc., eh bien, on peut créer une bulle qui ramène le taux d'intérêt égal au taux de croissance. C'est-à-dire qu'il y a une fonction des bulles qui, dans nos modèles canoniques, apparaît, qui est de rétablir l'efficacité intertemporelle, c'est-à-dire de refaire, en quelque sorte, des transferts de revenus vers la première génération de vieux. Et donc ça c'est assez général. Alors vous allez dire est-ce que j'ai mis les équations pour le modèle à génération. Hein. Je vais pas les commenter longuement. C'est standard. Hein. J'ai mis donc il y a un agent, il a des objectifs qui est de maximiser son utilité de la consommation de la période T+1. Hein. Ses contraintes, eh bien c'est qu'il le prix du bien en termes de monnaie, je l'appelle P de T. Le prix du bien en termes de monnaie demain, je l'appelle P+1. Hein. Donc il aura des Ça, c'est son objectif. Sa contrainte budgétaire, ben, c'est qu'il achète... ce qu'il vend aujourd'hui, c'est W-CT, hein, ce qu'il consomme, ce qu'il avait. Donc, il vend au prix PT. Avec ça, il achète de la monnaie. Hein, et demain, il achètera avec la monnaie qui a M2T, qui sera transférée, il achètera du bien de consommation au prix PT+1. Alors, l'équilibre que j'ai mis en évidence, c'est l'équilibre stationnaire, dans lequel le prix du bien en termes de monnaie a une valeur telle que ce qui se passe est une consommation est une consommation stationnaire pour les agents économiques. Par ailleurs, alors je voulais simplement dire, mais il y a d'autres équilibres. Hein. En particulier, lorsque j'avais fait le cours de macroéconomie, je vous avais montré que dans ce monde, il peut se passer des choses très compliquées. D'abord, moi, j'ai mis en œuvre l'équilibre stationnaire où le prix de la monnaie est constant dans le temps. Mais il y a aussi des équilibres dans lesquels le prix de la monnaie change, hein. Soit qu'il augmente, soit qu'il diminue, soit qu'il oscille. Il y a même des équilibres qu'on appelle des équilibres à tâches solaires dans ce modèle, du moins dans certaines configurations, c'est-à-dire des équilibres dans lesquels ce qui se passe dépend de tâches sur le soleil qui sont aléatoires. Hein, et quand il y a des tâches sur le soleil d'une certaine couleur, le prix est haut. Quand c'est une autre couleur, il est bas. Et tout ça est parfaitement autoréalisateur. Donc ce monde, aussi simple soit-il, n'est pas aussi facile à comprendre. Hein, c'est juste le point que je voulais noter, simplement... Parce que c'est un point général. Hein, les problèmes du monde social, du monde économique, ce sont pas des problèmes simples. Donc le monde économique que j'ai décrit ici, c'est un monde élémentaire. Mais même ce monde élémentaire n'est pas si facile que ça à comprendre. Et c'est pour ça que certaines personnes, comme moi, pensent qu'on est obligé de sceller de mathématiques si on veut essayer de le comprendre dès qu'il devient un peu compliqué. Mais même quand il est simple, c'est pas toujours le cas. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu sur le message théorique. Hein. J'ai dit à peu près l'essentiel, je vais probablement pas m'éterniser. Hein. Si le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, il n'y a pas de bulle. Si le taux d'intérêt est inférieur au taux de croissance, alors il existe une bulle durable, alors déterministe, mais je pourrais étendre ça à stochastique, qui rétablit l'efficacité intertemporelle. Alors, évidemment, ce qu'on a cherché à faire à partir de ça, c'est de voir quelle était la robustesse de ce raisonnement lorsqu'on quittait les modèles simples ou qu'on mettait toujours des modèles à horizon infini plus compliqués. Alors, comment compliquer ? Ben, on peut mettre des modèles dans lesquels il n'y aura pas de taux d'intérêt, il n'y aura pas d'actifs sans risque, il y aura des taux d'intérêt variables, dans lesquels on va mettre de la finance plus compliquée. Hein, les prix d'État, ce seront les probabilités risque neutre. Ça, c'est les années où j'ai parlé de la finance. Hein, ça dira quelque chose à ceux qui étaient là. Dans lequel il y a un mélange de marché complet et de marché incomplet. Hein, et s'il y a des marchés incomplets, les prix d'État sont des prix individualisés. Le marché n'égalise pas les taux de substitution entre biens et État et les agents. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Hein, tout ce que ça. Mais ce qu'on trouve dans ces modèles, alors c'est nettement plus sophistiqué et nettement plus technique, c'est que pour qu'il y ait une bulle, il y a une condition nécessaire pour avoir la bulle qui est la suivante et qui englobe tout ce que j'ai dit dans les deux cas très simples. La condition nécessaire, c'est que vous regardez l'équilibre intertemporel jusqu'à l'infini, autant de prix, autant d'états de nature que vous voulez, ça peut être très compliqué. Vous regardez les valeurs actualisées, les prix actualisés à l'époque zéro dans cet équilibre. Il y a des prix actualisés, ils sont pas les mêmes pour tout le monde, hein, parce qu'on est dans un monde de marché incomplet. Vous regardez le budget de chaque État, de chacun, mesuré avec ses prix actualisés, et vous faites la somme sur tous les agents. Si vous trouvez l'infini, alors vous pouvez trouver une bulle. Si vous trouvez moins de l'infini, vous ne pouvez pas trouver une bulle. Ça généralise mon critère précédent. Ce qui se passait dans le critère précédent, c'est que dans le, mes agents, quand il y en a une infinité, chacun a un budget fini en valeur actualisée, mais la somme des budgets, dans le modèle OLG très simple, c'est à l'infini. C'est dans le cas où je pouvais trouver une bulle. Donc, voilà. Donc on peut faire une théorie plus générale, mais qui est assez... Alors, avant que j'aille dans d'autres directions pour regarder une bulle, il y a quand même... j'ai été très, très simpliste sur l'information. Je vous ai montré des exemples dans lesquels on était déterministe, on était stochastique éventuellement, mais j'ai vraiment absolument pas mis l'accent sur l'information des agents. Or, il y a une explication, vous pourriez dire. Si vous avez des agents mieux informés que d'autres, alors, est-ce qu'il pourrait pas se passer la chose suivante ? Il y a une information asymétrique. Il y a des gens qui ont une bonne information et des gens qui ont une mauvaise information. Alors, pourquoi la bulle ne pourrait-elle pas naître du fait que les gens qui ont une mauvaise information acceptent de commercer avec les gens qui ont une bonne information et se fassent roubler ? On va revenir un petit peu sur cet argument. Alors, à nouveau, dans le modèle canonique, si vous ajoutez une hypothèse qui est parfois une hypothèse canonique, c'est-à-dire que quelque part, il y a un a priori commun, c'est-à-dire toute la... Si vous n'avez pas l'information, vous savez qu'il y a un a priori, vous savez que quelqu'un observe tous les événements et que vous n'observez que 1 sur 2. Enfin, vous êtes capable de dire s'ils sont à gauche ou à droite, mais absolument pas de savoir où ils sont sur le truc. Mais si vous savez que l'information qu'a l'autre vient de à la même source que la vôtre, même si vous observez moins bien, alors vous n'accepterez pas de commercer avec quelqu'un qui veut commercer avec vous. C'est le théorème du no-trade. Alors, ce n'est pas nécessairement un théorème très réaliste, mais c'est quelque chose que l'on trouve dès lors qu'on veut réfléchir à fond à ces questions. Donc, jouant sur l'information, on ne va pas aller très loin. Ce qu'on pourrait faire, c'est trouver des exemples où le prix de l'actif est, par exemple, supérieur à la moyenne de ce que les gens pensent, compte tenu de leur information. On peut trouver des cas où le prix de l'actif est plus influencé par les informations publiques que par les informations privées. Mais est-ce que ça, ce sont des bulles au sens que j'ai dit tout à l'heure ? Probablement pas. Donc, moralité, les conclusions théoriques, c'est que soit il y a des bulles durables, s'il n'y a pas de bulles durables, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bulles du tout, sauf les bémols que je viens de mettre, ou... Soit il y a des bulles durables, mais elles sont dans le cadre du modèle à génération que j'ai dit tout à l'heure, et je dis que les bulles durables, telles que la dernière que j'ai mise ici, sont peu plausibles empiriquement. Parce que les bulles... Alors, est-ce qu'il n'y a pas de bulles durables ? Il y a des opinions malgré tout différentes là-dessus. On lit parfois des choses qui vous disent que ce qui se passe sur le marché de l'art ressemble à une bulle durable. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série d'œuvres d'art qui sont maintenues dans les coffres-forts, donc la valeur fondamentale ne semble pas claire, et dont malgré tout le prix s'accroît, etc. Et il y a eu des arguments dans la littérature pour dire que ça ressemblait à des bulles de notre modèle théorique. J'y crois pas. Les bulles qu'on observe sont des bulles récurrentes mais temporaires. C'est le cas pour toutes les bulles. Et on ne peut pas les interpréter comme des bulles stochastiques au sens de la théorie. Donc notre première investigation, c'est que, avec notre théorie, on n'a pas trouvé comment expliquer les bulles. Malgré tout, ça nous laisse toute une série de pistes. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on n'a pas réussi à l'expliquer, parce qu'en essayant de l'expliquer, en ayant vu qu'on n'est pas réussi à l'expliquer, on a quand même compris pas mal de choses sur la manière dont ça fonctionne. Du moins, il faut espérer. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Alors donc, quelles sont les pistes ? C'est... passer de l'idée d'a priori commun, c'est dire vraiment il y a des gens qui n'ont pas d'informations et qui ont tort de vouloir faire des échanges avec des gens qui ont d'informations, qui sont d'une certaine manière irrationnels en un certain sens. Ils ne devraient pas le faire, mais ils le font. Ça, c'est une première chose. On peut dire maintenant il y a des gens, alors ça c'est sur la dimension information. Je peux dire ensuite, alors il y a les trois dimensions, je peux dire il y a des gens qui ne sont pas rationnels. Ce n'est pas une dimension que je vais absolument explorer, au sens où, par exemple, ils ne sont pas bons statisticiens, ils ont tendance à croire, avoir trop de confiance dans leur propre jugement par rapport aux informations qu'ils obtiennent de l'extérieur. Ça, c'est une seconde piste. Et puis, Alors, est-ce qu'on les appelle irrationnels ? C'est une variété d'irrationalité, hein, mais ils ne sont pas rationnels au sens de la théorie. Et puis, il y a des agents, on peut dire, il y a des agents qui font bien les prévisions et des autres qui ne les font pas. Parce que moi, j'étais dans un monde où tout le monde faisait les bonnes prévisions. Donc, ça fait un petit peu ces trois pistes. Donc, je vais commencer à les explorer. Hein, et je vais les explorer donc, en restant au plus près des hypothèses du modèle canonique. Et donc, là, en étant plus près du modèle canonique, je vais regarder, la première exemple que je vais regarder, c'est que la bulle est comprise. Il y a deux catégories d'agents. Il y a des agents qui sont intelligents, je ne sais pas comment les caractériser. Je ne dirais pas, ils sont rationnels certainement, mais on va voir en quel sens. Hein. Et non par des agents irrationnels. On va mettre en évidence ce qu'on appelle l'effet Soros. Alors, c'est quoi les effets Soros ? Ben, les effets Soros, ça va être lié à ce qu'il y a, une partie des investisseurs vont être des suivistes dans le positive feedback traders. Ils réagissent, ils s'en tiennent au feedback et ils réagissent de façon positive au feedback. Et donc, c'est la stratégie qui était prêtée à George Soros quand il a gagné beaucoup d'argent sur un certain nombre de marchés, en particulier d'attaques de monnaie. Alors, sa stratégie, c'est de parier non pas sur les fondamentaux, mais sur le comportement futur de la foule. Hein, c'est d'essayer d'anticiper que si le prix va monter, il y a des gens qui, rationnellement, vont se joindre. Et donc, vous avez intérêt à... Et anticipant ceci, vous pouvez vous en tirer mieux que les gens qui sont allés sans trop réfléchir. Alors ça, c'est aussi formel, et c'est ce que dit... Kindleberger, hein, dans son ouvrage tout à fait très célèbre sur les crises, hein, Mania, Panics and Crashes, hein, il dit donc que les insiders déstabilisent en faisant monter le prix et puis vendent ce mets aux outsiders qui vendent au bas. Alors, c'est la description, comme vous allez le voir, le modèle que je vais proposer, la description de Kindleberger ne s'applique pas complètement. Ou plutôt, elle s'applique de façon assez métaphorique, parce que la description de Kindleberger, c'est que c'est de la manipulation. Moi, je vais vous montrer un modèle dans lequel ce n'est pas de la manipulation, hein, c'est simplement l'effet de la prévision. Donc, ce n'est. Évidemment, ça ne porte pas le même jugement sur ce qui se passe, même si c'est. Alors, la rationalisation de la stratégie. Je vais supposer donc qu'il y a un spéculateur rationnel et qu'il a de l'information privée sur la valeur fondamentale d'une action. Il a de l'information privée qui va arriver avant les autres. Alors, à nouveau, je ne fais pas l'hypothèse, je fais l'hypothèse que tous ces spéculateurs sont des petits spéculateurs. Ils n'ont pas de pouvoir de marché. Naturellement, s'ils ont un pouvoir de marché en plus, ça permet de renforcer l'affaire. Mais je ne fais pas l'hypothèse. Je fais l'hypothèse qu'ils sont pas, ils n'ont pas des comportements vis-à-vis du risque différents. Ils auront de l'aversion au risque comme les autres agents. C'est-à-dire qu'ils feront, précisément, dans le modèle que je vais présenter, ils feront un arbitrage moyenne variance, qui est un arbitrage un peu sommaire, mais assez standard. Hein. La moyenne, vous mettez en regard la moyenne de ce que vous gagnez en espérance. Hein, en moyenne, vous gagnez avec une variable aléatoire risquée, mais vous avez une certaine variance. Et donc la demande que vous avez est proportionnelle à la différence entre le prix de l'actif et la moyenne que vous espérez, divisé par quelque chose qui est le produit d'une aversion pour le risque et de la variance. Ça s'appelle le modèle moyenne variance, ça peut être justifié par des considérations d'une fonction d'unité quadratique avec un risque ayant des caractéristiques standards. Donc, c'est un modèle standard. Donc ils vont être, de ce point de vue-là, complètement standards. Et donc, le résultat, c'est que les investisseurs rationnels vont déstabiliser le marché parce que les investisseurs suivis vont acheter quand le prix a monté et que cette réaction va être anticipée, de surréaction du marché va être anticipée. Alors, est-ce qu'il y a, avant d'aller plus loin, je voudrais simplement dire, est-ce qu'il y a, quels sont les arguments pour le fait qu'il y ait des suivistes ? Y a toute une série d'arguments. Certains qui pourraient être formalisés mieux que d'autres, en particulier un argument, mais qui n'est pas celui que j'ai dans ce modèle-là du tout, de comportement moutonnier. J'en parlerai peut-être, parce que le comportement moutonnier, c'est très important. Hein, ça explique un certain nombre de choses. Il n'est pas impossible que ça explique partiellement ce qui se passe dans nos médias, par exemple. Mais ça explique un certain nombre de choses en économie. Le comportement moutonnier, c'est... Alors là, vous avez vraiment intérêt à suivre les autres, ce qui n'est pas le cas ici. Deuxièmement, vous pouvez suivre les autres parce que vous avez l'impression qu'ils ont eu de l'information. C'est un peu le cas d'ailleurs dans le modèle. Ils ont eu de l'information. Si le prix a monté, ça a bien marqué de l'information, mais ça ne vous permet pas de vous en sortir. Là, j'ai mis une autre base empirique au suivisme, c'est des expériences. Il est de mode en économie depuis 15 ans de faire des expériences. Autrefois, les expériences étaient réservées à la psychologie. La psychologie était une science, on faisait des expériences. L'économie était une science, on avait beaucoup trop de données pour que ça ait même un sens qu'on fasse des expériences. Maintenant, ça a changé, il y a beaucoup d'expériences. En particulier, là, je vous montre un résultat d'expérience dans lequel on rémunère les gens selon la qualité de leur prédiction. Et on regarde ce qui se passe au cours du temps. Là, vous voyez monter des pics. Il y a des comportements dans les expériences, il y a des comportements de suivisme, éventuellement des comportements de suivisme et de chute récurrente. Donc, alors maintenant, je vais décrire le modèle un tout petit peu plus près. On n'ira pas, on va pas faire beaucoup d'algèbre. Grosso modo, la sphère réelle, c'est que je prends phi et θ, ce sont des variables aléatoires de moyenne nulle. Donc, il y a un actif. En période 0, cet actif vaut 0. Je pourrais dire qu'il vaut 1, c'est fondamental, ça n'a pas d'importance. 0 est une référence. En période 1, il ne se passe rien. Et en période 2, il va y avoir un choc qui va être de plus phi. Où phi, à nouveau, est une variable aléatoire de moyenne nulle, mais dans certains cas, sera positif, etc. Et ce qui va se passer, et en période 3, à nouveau, il va avoir un choc aléatoire, donc la valeur de l'actif va être phi plus θ, et il va être liquidé à cette valeur-là. Il faut bien voir qu'il est liquidé en période 3, donc il y a une fin du monde. Je suis dans le modèle dans lequel j'ai dit que ça n'allait pas marcher, mais vous allez voir, ça marchait. Il y a une fin du monde, et je sais que le prix de l'actif, je ne sais pas quel prix va être liquidé, je vais en vouloir plus ou moins selon... Il y a une certaine... À chaque moment, j'ai une certaine incertitude sur le prix auquel il va être liquidé, bien entendu. C'est phi plus θ, où phi va être connu en deuxième période, mais n'est pas connu au début des temps. Donc, je l'ai dit, les suiveurs, ils connaissent les prix passés. Si les prix ont augmenté dans le passé, ils achètent. Il y a une deuxième catégorie qui sont les investisseurs passifs. Alors, les investisseurs passifs, eux, ils connaissent phi seulement en période 2, ils ne connaissent pas en période 1. Et sinon, ils font comme si ils sont passifs. Ils regardent les prix, ils ont l'idée qu'ils ont sur phi, ils n'essaient pas de tirer des informations du marché. Et puis les spéculateurs, les spéculateurs à la George Soros, en période 1, c'est-à-dire une période avant, ils reçoivent l'information l'actif va augmenter de phi, plus phi. La réalisation de phi est une valeur positive, ils la prennent une période avant. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là ? Alors là, je donne la période 0, qui est la période de référence. Il y a de demande pour personne, le prix est zéro, ni les suivistes, ni les passifs, ni les spéculateurs ne bougent, le marché ne bouge pas, il y a de demande pour personne. En période 1, les spéculateurs apprennent phi, et à ce moment-là, il y a un prix pour le bien, donc ils en demandent, donc il apparaît un prix. Les passifs offrent le bien selon une règle standard des modèles moyenne variance, c'est-à-dire moins alpha P1. C'est-à-dire qu'ils ont une offre qui est égale à alpha, qui dépend de leur aversion au risque de la variété de bruit, multipliée par P1, donc ils offrent d'autant plus que le prix est plus élevé. Alors par contre, les spéculateurs, ils essaient de comprendre ce qui va se passer la fois période, parce qu'ils vont acheter le bien pour en tenir compte de son prix à la période suivante. En troisième période, alors les passifs vont apprendre phi. Les suivistes, ayant vu le prix en première période augmenter, vont demander de l'actif avec quelque chose qui dépend de P1 moins de P0, de combien a augmenté le prix de l'actif entre les deux premières périodes. Par contre, à la fois les passifs et les spéculateurs vont reprendre le comportement standard. C'est un actif dont le rendement est aléatoire, dont la moyenne est phi. Et donc, ils vont avoir quelque chose qui va dépendre de l'écart entre P2, le prix aujourd'hui, et phi. La valeur espérée est d'autant plus élevée que le risque est le plus élevé. Alors, je vais passer directement à quel va être le résultat. Alors d'abord, quel serait le résultat s'il n'y avait pas de spéculateur ? Quel serait le prix de l'actif ? En période 0, il est 0. En période 1, il serait 0. S'il n'y avait pas de spéculateurs qui avaient appris quelque chose, par exemple. Hein. En période 2, puisque tout le monde apprend phi, le prix de l'actif serait phi, il serait pas échangé, chacun garderait la même quantité, P2 égale phi. Et puis en troisième période, il serait liquidé à phi plus θ, où θ est une variable aléatoire. Dans le monde où je suis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être différent. Parce que d'abord, en première période, le prix va augmenter. Alors, je fais l'hypothèse où le nombre de passifs est zéro. Hein, il y a simplement des spéculateurs. Donc, le prix va augmenter jusqu'au moment où le prix de première période est égal au prix espéré de deuxième période pour les spéculateurs. L'équilibre d'anticipation rationnelle de prévision parfaite, c'est quelque chose dans lequel le prix de première période et le prix de deuxième période sont égaux à une certaine valeur. Et qu'il soit tel que ça... Alors, pourquoi? Il faut que ce soit autoréalisateur. Pour qu'il soit autoréalisateur, il faut que le prix de deuxième période, compte tenu des comportements que j'ai donnés, et compte tenu du comportement suiviste des gens qui ont vu le prix augmenter entre la période 0 et la période 1, soit bien le prix P2 que j'ai produit. Donc, l'équilibre résulte d'un point fixe, hein, qui n'est pas extraordinairement compliqué, hein, mais dont j'ai l'algèbre est ici. Hein, je l'ai fait dans le cas où il y avait zéro passif, l'algèbre est ici. Hein, et vous voyez évidemment que ce prix est plus élevé que le prix phi. Pourquoi? Parce qu'il incorpore le fait que la montée du prix en période 1 va être suivie d'une demande accentuée des suivistes en période 2, et donc elle va avoir un prix d'équilibre de période 2 qui va être plus élevé. Alors naturellement, qui va faire du bénéfice? Ça va être bien entendu ceux qui ont acheté initialement, qui ont eu l'information initiale, et parce que évidemment le prix ici, P2, va être supérieur à phi, donc eux, ils vont vendre. Ce qui va se passer ici, c'est que les spéculateurs vont vendre et les autres vont acheter. On est dans un monde qui a anticipation rationnelle, qui a prévision parfaite, et dans lequel il y a quelque chose qui ressemble à une bulle. Une bulle qui s'effondre. Alors, qu'est-ce qui se peut... Donc, la morale de l'histoire, c'est que les suiveurs ne sont pas rationnels. Ils ne sont pas rationnels et ils n'ont pas de vision prospective. Ils ne comprennent pas le monde. Ils sont suiveurs au sens qu'on a vu tout à l'heure. Alors, les passifs, je vais passer là-dessus parce que je n'ai pas besoin des passifs, en fait, pour raconter ces histoires. J'aurais dû la raconter sans les passifs. Les passifs ne sont pas sophistiqués. Pourquoi? Parce que si c'était sophistiqué au sens où j'ai dit tout à l'heure, où j'ai dit quand on a de l'information et que les gens la traitent de façon sophistiquée, alors ce qui va se passer est beaucoup plus compliqué, on sait beaucoup moins. Si c'était sophistiqué, il comprendrait que le fait que le prix monte en période 1 reflète de l'information obtenue par les agents qui sont informés en période 1. S'ils savaient que les autres peuvent être informés en période 1, ils interpréteraient la montée des prix en période 1 comme une nouvelle. Et donc, ils changeraient tout à fait leur comportement. Donc, ils sont relativement peu sophistiqués. Alors, les spéculateurs, de quoi ils bénéficient? Bien, d'une part, de leur information supérieure. Il faut bien voir que c'est eux qui ont l'information les premiers. Hein. Ils ne sont pas absolument. Et de leur prévision supérieure. Mais leur prévision supérieure conduit à, en quelque sorte, multiplier le gain de leur information. Puisque, comme ils comprennent que le fait que le prix va monter va le faire encore plus monter... Hein, leur comportement conduit à valider cette amélioration de leur situation, d'une certaine manière. Et ce n'est pas de la manipulation, ils ont simplement des prévisions parfaites, ils ont des anticipations rationnelles au sens de la théorie. Alors, est-ce qu'on devrait croire... Alors, donc, quels sont les phénomènes derrière? Oui, je viens de le dire ici. Hein. Quels sont les phénomènes derrière? Ceci n'est pas... C'est un modèle de bulle qui a une certaine pertinence, qui semble rendre compte de choses qui se passent. En particulier, on l'a attribué à des attaques spéculatives faites par Georges Soros, mais à des choses qui se passent, en tout cas, en cas de certaines attaques spéculatives. On a des épisodes où ce qui se passe ressemble un peu à ça. Et on voit bien la mécanique est extraordinairement simple. Alors, naturellement, on a enlevé la rationalité des agents, hein, et on a enlevé leur sophistication. Et ceux à qui on a enlevé la rationalité, on s'est enlevé l'anticipation rationnelle. Les passifs n'ont pas d'anticipation rationnelle non plus. Donc on est sorti du cadre canonique, mais on a eu un modèle qui est un modèle dans lequel il y a quelque chose qui ressemble à une bulle. Pourquoi malgré tout c'est pas intéressant? Pourquoi en tout cas ça n'épuise pas notre histoire? J'ai dit comme dans Tolstoï, il y a autant d'histoires de familles malheureuses qu'il y a de familles malheureuses. C'est pas rien. Il y a autant d'histoires de bulles qu'il y a de bulles. Ça c'est une histoire possible. C'est sûrement pas l'histoire qui s'est passée dans la bulle Internet, par exemple. La bulle Internet, et je vais terminer là-dessus, je vous la raconterai la fois suivante, je vous ferai un modèle qui rend ça plausible. La bulle Internet, il y avait, vers 1997, donc avant qu'elle monte, il y avait deux célèbres intervenants sur la place de Wall Street. Le premier s'appelle J.R. Je ne me rappelle plus du nom exact. Hein. Ils sont célèbres, mais pas pour moi, qui suis un peu étranger à la finance. Et le second s'appelait S.D. Le premier était le patron du Tiger Hedge Fund, donc dans un de ses fonds de couverture, fonds spéculatifs, qui s'appelait Tigre, donc ça devait être assez efficace. Hein. C'était vraiment quelqu'un, c'était une star. Hein. Et en 1997, il disait à qui voulait l'entendre, enfin au début de la bulle, hein, je ne sais plus, 98, etc., il disait tout ce qu'il disait ensemble dans les dîners en ville, hein. Soit dit entre nous, moi j'ai participé à des tas de dîners en ville à cette période où tout le monde disait que c'était une bulle. Mais en tout cas, lui disait, qui était le chef du Tiger Hedge Fund, disait, tout ça c'est une bulle, hein, il est hors de question, je vais me mettre dans cette affaire de fou. Problème, c'est que, n'étant pas dans cette affaire, son hedge fund a fait moins bien que ses partenaires et il a été obligé de fermer en fin 99, hein, par suite de mauvaises performances. À la même époque, il y avait SD, qui était le chef du Quantum Fund, hein, qui est un autre concurrent, star totalement respecté également, qui disait dans les dîners en ville, ceci est une bulle, ça n'a aucun sens. Mais il est hors de question que je n'y reste pas, je sauterai du train juste avant l'accident. Problème, il était obligé de donner sa démission en avril 2000, après que la bulle se soit effondrée, et il n'avait pas retiré ses actifs de ceci. Donc vous voyez bien, c'est une histoire qui n'est pas du tout... c'est une histoire vraie, d'une vraie bulle, hein, dans laquelle les agents ne sont absolument pas mes agents à la Soros, intelligents et comprenant le monde, alors que les autres ne comprennent pas. Hein. Ils ont compris, ils savaient que c'était une bulle, hein, et il y en a un qui n'est pas allé, l'autre qui y allait. En fait, ce qu'on verra dans le modèle qu'on fera la fois suivante, l'optimum dans ce monde, hein, je montrerai un modèle dans lequel... Ben, vous êtes dans une bulle, vous savez que vous êtes dans une bulle, et vous avez intérêt à y rester un certain temps. Alors, vous gagnez ou vous perdez. Mais donc, les bulles, dans cette histoire, les bulles sont des choses dont la stabilité est beaucoup plus forte que ne le suggèrent tous nos raisonnements amont. Mais naturellement, pour ça, il a fallu sortir un petit peu des hypothèses canoniques. Est-ce ce qu'on a fait sortir était ce qu'on aurait voulu faire sortir? Est-ce qu'on raconte une histoire qu'on aime et à laquelle on croit? Ça, on le verra la fois prochaine. Pour... aujourd'hui, il est 17h30, j'ai commencé à 16h33 comme à l'habitude, donc je termine à 17h30 comme à l'habitude. Merci.